Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Aujourd'hui, une histoire des frontières de la Russie et du réflexe expansionniste de ce pays, qui est aussi un empire. Avec ses 17 millions de kilomètres carrés, la Russie est l'État le plus vaste du monde, à cheval sur deux continents, l'Asie et l'Europe. Depuis plusieurs siècles déjà, le pouvoir central a pour horizon des espaces immenses qu'il s'est efforcé de coloniser, que l'on pense à la Russie soviétique avec les démocraties populaires, ou plutôt encore du temps des Romanov, qui multiplièrent durant trois siècles les expansions territoriales, tandis qu'aujourd'hui la guerre en Ukraine semble montrer que la Russie ne se satisfait toujours pas de la taille de son territoire.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Racontez cette histoire, nous sommes avec vous, Marie-Pierre Rey, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes professeur d'histoire de la Russie et de l'URSS à l'Université Paris 1 et vous faites paraître avec François-Xavier Nérard une nouvelle version de votre atlas historique de la Russie, sous-titré « Divan III à Vladimir Poutine », c'est aux éditions Autrement. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par la carte que vous nous avez transmise et qui est extraite justement de cet atlas. Cette carte, on peut la visualiser sur notre site internet et elle représente l'expansion territoriale russe depuis le règne d'Ivan le Terrible jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire 1551 jusqu'à 1914. Pourquoi avoir choisi cette carte, Marie-Pierre Rey?
Alors, nous avons choisi cette carte et j'en profite pour rendre hommage à notre cartographe, voilà, qui a donc beaucoup travaillé, Cyril Susse, qui nous a fait des cartes magnifiques pour cet atlas. Et nous avions choisi cette carte parce qu'elle est extrêmement parlante. Elle met bien en avant la continuité, la manière dont l'empire russe va émerger à partir de son noyau, qui est le noyau moscovite. Alors, nous avons commencé cette carte au XVIe siècle pour ne pas trop la surcharger, mais en réalité, dans le texte qui l'accompagne, on mentionne que Moscou, au départ, est une toute petite principauté qui, elle-même, a absorbé, à la fin du XVe siècle, des principautés rivales, dont Novgorod. Et ça se passe sous le règne d'Ivan III, qui est le premier vrai grand prince qu'on pourra qualifier d'expansionniste, mais qui se dit unificateur des terres russes. Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce que, dans cette toute première partie, au moment de l'unification des terres russes, Ivan III va donc soumettre des principautés, dont Novgorod, qui était une ville-cité république. Et il le fait en affirmant un pouvoir autoritaire qui sera désormais la marque de fabrique des autocrates moscovites. Donc, on a à la fois une unification des terres russes, l'affirmation d'un pouvoir déjà autocratique.
Donc une tradition
qui commence, voilà,
il y a longtemps et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui.
Voilà.
On y reviendra.
Voilà. Et en particulier, donc, il va conditionner toute l'histoire de l'empire russe et dont aujourd'hui, Vladimir Poutine se reconnaît d'une certaine manière, on y reviendra. Alors, donc ça c'est le premier épisode, et puis, effectivement, à partir donc d'Ivan IV, dit le Terrible, commence une nouvelle phase, qui est une phase donc d'expansion, qu'on voit sur la carte, et qui est intéressante parce que elle prend sous Ivan IV deux directions principales, l'Est, et ça va être le début de cette extraordinaire aventure que constitue la conquête de la Sibérie, jusqu'à l'Extrême-Orient, donc c'est vraiment la première direction que prend cette expansion russe, et elle est lancée par Ivan le Terrible, et qui est intéressante parce qu'elle se fait là sur un mode qui n'est pas sans rappeler un peu le Far West américain, mm-hmm. c'est-à-dire avec des aventuriers, des paysans en quête de terre, des paysans qui refusent le servage. Bref, on a une
plus
sorte
tard
de...
avec le train aussi,
voilà,
qui fait penser aussi à la conquête de l'Ouest américain.
Absolument. Et donc là, c'est vraiment la conquête des grands espaces où on a également le recours à des mercenaires, comme les Cosaques, Ermak, qui est le premier à explorer la Sibérie, pour le compte des Stroganov, hein, qui est à qui le tsar a laissé carte blanche via une concession. Donc ça, c'est une zone où les Russes vont avancer relativement vite et relativement facilement parce que ils ne vont pas rencontrer beaucoup d'obstacles.
On y reviendra sur l'aspect justement géographique.
On a des nomades, des semi-nomades, c'est relativement facile. Bon, et jusqu'à l'Extrême-Orient, qui sera conquis plus tard. Et ce qui est intéressant aussi, toujours sous le règne d'Ivan le Terrible, c'est que il conquiert, et ça c'est très important, Kazan et Astrakhan, c'est-à-dire des territoires qui sont plus au sud, vers la Volga, et qui sont à ce moment-là ce qu'il reste, pourrait-on dire, de l'ancien, ce sont des Tatars, hein, peuplés de musulmans Tatars, Astrakhan et Kazan, qui ont fait partie autrefois du pouvoir des Khans, et dont il reste peu de choses au milieu du XVIe siècle. Mais c'est très important parce que ces conquêtes qui se font par la guerre, hein, par l'action militaires, vont donc faire entrer des populations non slaves et musulmanes dès le milieu du XVIe siècle. Ce qui veut dire qu'on a déjà un début en fait d'entité plurinationale et plurireligieuse, pourrait-on dire.
Ce qui fait qu'en quelques siècles, trois siècles et demi, ce qui était la Russie, qui était déjà un petit peu plus gros que ce qu'elle n'avait été, a été multiplié par 10. La surface a été multipliée par 10. C'est totalement inédit, ça. Une conquête, une multiplication comme ça d'un territoire qui soit aussi grande par la conquête, Marie-Pierre Rey.
Ah oui, c'est un cas unique dans l'histoire mondiale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, voilà, non seulement on va avoir cette progression vers l'Est, la progression vers le Sud, mais aussi un peu plus tard vers l'Ouest. Autrement dit, la dilatation, elle s'est faite énormément vers l'Est, jusqu'à l'Extrême-Orient. Vladivostok est fondé en 1860, l'Extrême-Orient étant conquise sur la Chine, mais on va avoir aussi ce tropisme, pourrait-on dire, occidental, qui fait qu'il faut aussi regarder vers l'Ouest, et ça c'est Pierre le Grand qui va énormément, évidemment, insister et aller vers la Baltique et créer Saint-Pétersbourg, sa dite fenêtre sur l'Europe en 1703.
Alors là, ça pose une question, Marie-Pierre Rey. Est-ce que vous diriez qu'il y a une tradition, au fond, spécifiquement russe, de conquête territoriale? Qu'est-ce qui explique, au fond, selon vous, cet expansionnisme?
Alors, il y a la géographie et la géopolitique, pourrait-on dire. Il faut bien avoir conscience que toute la zone qui va vers l'Est, vers la Sibérie, ne présente pas d'obstacles géographiques. Et ça, c'est une donnée extrêmement importante.
Alors, quand même une chaîne de montagnes qui s'appelle l'Oural.
Oui, mais qui est très, très, très facile à franchir. L'Oural, c'est une vieille montagne. Et pour être allé, pour ma part, à Yekaterinbourg, hein, qu'on présente toujours comme la limite entre la Russie d'Europe et la Russie d'Asie, on a aucune différence. La continuité géographique est évidente, climatique, les arbres sont les mêmes, la végétation est la même de part et d'autre de cette frontière. Donc, elle n'a jamais été un obstacle. Et les Russes ont donc avancé par continuité, c'est-à-dire qu'ils avançaient, ils bâtissaient des petits forts à l'abri desquels les paysans colonisaient.
Et des forts en bois qui ne sont pas très impressionnants,
absolument,
d'ailleurs.
Absolument, absolument. Mais qui faisaient quand même leur office et qui sécurisaient les paysans qui venaient s'installer. Et c'est ainsi qu'il y a eu cette avancée de manière totalement continue totalement. Et alors, évidemment, vers le sud, et en particulier après vers le Caucase et l'Asie centrale, là, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'on est dans une autre configuration où là, l'avancée russe est géopolitique et elle vise aussi à prendre évidemment des ressources économiques.
Mais là, plus de monde aussi qui habite là.
Et ça a été beaucoup plus difficile et un peu plus tardif, puisque le Caucase, il y a à la fois des rattachements entre guillemets volontaires de la Géorgie, puis de l'Arménie, parce qu'il s'agit de se protéger de l'Empire ottoman et de son vassal, la Perse. Mais ensuite, il y aura des guerres, dont ce qu'on appelle les fameuses guerres de Tchétchénie, hein, la fameuse guerre du Caucase, qui se joue en fait dans le nord du Caucase, le Daghestan, qui correspond à ce qu'on appelait ensuite la Tchétchénie. Mais là, on a ça s'est fait vraiment beaucoup plus difficilement par une volonté d'aller vers les mers du Sud et de conquérir des ressources, d'obtenir des ressources. Tandis qu'à l'ouest, la visée géopolitique l'emporte sur tout le reste.
Donc il y a la géographie, hein, vous l'avez dit, qui explique cet expansionnisme. Vous n'iriez donc pas jusqu'à dire qu'il y a une tradition, une volonté du pouvoir central russe depuis des siècles de s'exporter et de coloniser et de conquérir à grande échelle les territoires qui sont contigus aux siens, ce qui est une différence par rapport au colonialisme européen, par exemple.
Oui.
C'est que là, c'est une expansion de territoires toujours contigus.
Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est fondamental et c'est très intéressant de constater que fin 18e, début 19e siècle, les Russes ont commencé, se sont installés au-delà de ce continuum. Ils sont allés jusqu'à Fort Ross, hein, qui existe toujours, en Californie.
Oui, c'est ça, voilà. on imagine mal, mais voilà, en réalité, la Californie a été russe.
Voilà, et l'Alaska. Mais ça a été très vite abandonné, parce que précisément, mentalement, d'abord c'était difficile et coûteux à défendre. Les Russes avaient installé des comptoirs qui étaient très importants, parce qu'à l'époque, on chasse les loutres de mer. Ça rapporte énormément d'argent, parce que ce sont des fourrures très très prisées. D'ailleurs, elles ont été quasiment chassées jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais ce sont des territoires qui n'ont pas été finalement sauvegardés, parce que dans la mentalité russe, ça ne faisait pas vraiment vraiment partie de cet empire.
Et ça veut dire quelque chose, ça, cette volonté de continuité. Vous dites dans la mentalité russe, mais comment qualifier précisément, essayer de mettre un mot sur cette mentalité entre guillemets.
C'est difficile. C'est l'idée que il y a cet espace, en tout cas vers l'est, à conquérir parce que il est vide et qu'il y a des ressources. Très tôt, on a su qu'il y avait des ressources importantes, et en particulier les fourrures. Ça part de ça au départ. Les fourrures, le sel, et ensuite on va découvrir les minerais, etc., la richesse du sous-sol. Donc c'est quand même ça qui va entraîner ce mouvement. Et puis après, l'autre mouvement plus politique, c'est l'accès aux mers, parce que la Russie, elle est à la fois cet énorme continuum, mais elle a ce que d'aucuns ont appelé la fatalité continentale de la Russie. C'est-à-dire qu'il fallait aller vers les mers pour ne pas être finalement prisonnier de cet espace. Et ça, c'est politique. Ça, c'est une démarche politique. Donc on a, si vous voulez, à la fois l'idée qu'il faut nourrir la population, aller vers ces terres vierges qu'on imagine très riches. Même chose pour les steppes du Sud, qui vont, voilà, c'est l'Ukraine, hein, très riche, des bons sols agricoles qu'il va falloir conquérir et coloniser pour nourrir la population. Et puis, cette obsession des mers, des débouchés maritimes.
Alors comment cela se passe-t-il, Marie-Pierre Rey, du côté de l'Ukraine? À quel moment est-ce que l'Ukraine devient annexée, au fond, par les Russes? Ça se fait progressivement, d'ailleurs.
Oui, alors, oui, parce qu'il y a, il faut quand même rappeler, hein, quelques mots. Bon, on en a énormément parlé depuis 2 ans, donc tout cela est maintenant bien connu, mais quand même, rappelons que le premier pôle de civilisation, hein, c'était la Rousse, le premier pôle qui de civilisation russe se situe géographiquement dans la Russie du Sud, c'est ce qu'on appelle la Rousse, autour de Kiev aujourd'hui, hein, bien sûr. Ce premier pôle donc a vu le jour au 9e siècle, et puis progressivement il va entrer en déliquescence, à la fois parce qu'il y a des problèmes internes et puis les attaques des Mongols. Et au départ, ce pôle de civilisation était une sorte se constituait autour d'un État et de principautés, mais qui était très lâche. Les liens n'étaient pas extrêmement forts et centralisés. Et progressivement, donc, la situation évolue et cet État disparaît au profit de principautés de plus en plus indépendantes. Moscou émerge à ce moment-là et c'est très important parce que...
Donc Moscou comme l'une de ses principautés.
Voilà, c'est ça. Et tandis que on va avoir progressivement, pour ce qui est des principautés, dont celle de Kiev, une entrée dans le royaume de Pologne, dans l'Union polono-lituanienne. Et ça, c'est très, très, très important, parce que cela va entraîner une acculturation polono-lituanienne de ces territoires que Moscou ne va pas connaître. Et donc, assez vite, on va avoir
une différence
culturelle, une différence... Bon, et c'est aujourd'hui, tout ça rejoue. C'est pour ça qu'il faut en avoir bien, bien conscience. Et donc, on a une sorte de situation ainsi. Mais qu'est-ce qui se passe au milieu du XVIIe siècle? Il se trouve que dans le sud le sud actuel, hein, de l'Ukraine, on a donc des communautés cosaques qui sont réunies dans une confédération, la Sitch, mais qui refusent à un moment donné l'autorité polonaise, refusant en particulier la religion catholique, hein, puisque eux sont orthodoxes. Et ils demandent à ce moment-là le soutien du tsar moscovite. Le tsar hésite à un moment, et puis finalement, il accepte de devenir donc le protecteur de ces communautés.
En échange de quoi ?
En échange, alors, il garantit théoriquement l'autonomie, les droits. C'est ce qu'on appelle le traité, hein, de Pereyaslav qui est signé en 1654 et qui va donc faire entrer dans l'ensemble russe la rive gauche du Dniepr. Et ce traité donc aboutit à ce résultat, donc l'intégration de la rive gauche du Dniepr, parce que les Russes vont combattre contre les Polonais et les défaire.
Donc en gros, c'est le prix finalement de l'aide de la Russie pour défaire les Polonais qui fait qu'un protectorat russe s'installe en Ukraine et qu'au fur et à mesure, ce protectorat devient de plus en plus présent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus tellement d'autonomie en Ukraine.
Et ce qui est important, donc, c'est qu'en 1686, Kiev est intégré également dans cet ensemble, et progressivement, Pierre le Grand et Catherine II vont totalement enlever toute autonomie à ces territoires cosaques ukrainiens, donc ils vont vite déchanter. Par ailleurs, les Russes vont également avancer vers le sud, les steppes du sud, cette fois au détriment de l'Empire ottoman, et ce sera la conquête en particulier de la Crimée, hein, qui sera prise en 1700.
Mais cette fois aux Ottomans.
Oui, et avec la fondation de Sébastopol en 1784.
L'Ukraine tourne aujourd'hui une page de son histoire, tourne définitivement le dos au communisme. Après l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, l'Ukraine est la 5e République soviétique à déclarer son indépendance. Une indépendance qui pourrait avoir de lourdes conséquences économiques pour le reste de l'Union. Avec ses 51 millions d'habitants, l'Ukraine est la république la plus peuplée après la Russie, mais surtout la plus riche. Agricole, elle a toujours été le grenier à blé de l'Union soviétique. Industrielle, elle fournit en matières premières et notamment en charbon une grande partie de la Fédération soviétique.
Un reportage d'Antenne 2 du 24 août 1991, la date qui marque la fin de la tutelle russe sur l'Ukraine. Sauf que la Russie n'a jamais vraiment considéré l'Ukraine comme totalement sortie de son orbite. Dans l'esprit du pouvoir central russe, au fond, l'espace russe comprend l'Ukraine.
Oui, parce qu'il y a un discours qui est ancien, qui s'est vraiment bien établi au XIXe siècle par les historiens russes proches du pouvoir, enfin même stipendiés pour certains par le pouvoir autocratique, que Vladimir Poutine a repris, hein, qui est donc aujourd'hui dans une certaine continuité, hein, qui est que voilà, c'est une construction qui n'existe pas, les Ukrainiens voilà sont des Russes, et il y a donc une négation de tout ce qui a été les prémices de ce sentiment national ukrainien qu'on voit apparaître dans la partie ukrainienne sous tutelle russe, mais également dans la partie sous tutelle autrichienne au XIXe siècle. Mais la figure emblématique, ça va être le poète Taras Shevchenko, hein, qui est celui qui va lancer l'idée qu'il y a une aspiration ukrainienne à exister en tant que telle. Alors, ce qui se passe, c'est très intéressant qu'on vient d'entendre, c'est que ce sentiment national, il s'est exprimé au moment de la chute de l'Empire, au moment des révolutions. L'Ukraine, ses territoires, se sont à chercher à s'émanciper et à se proclamer déjà en pays indépendant, mais ça ne va pas aboutir. Il n'y a pas assez de soutien de la communauté internationale, et par ailleurs, eh bien, les bolcheviks ne veulent pas renoncer à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire une zone extrêmement riche, extrêmement intéressante sur le plan agricole, mais aussi sur le plan industriel. Et donc, par la force, l'Ukraine va être contrainte de rentrer dans le rang. Alors, ce qui est important à noter, c'est que, là aussi, c'est une sorte d'échange. Lénine va accorder des droits à cette république qui vient d'être mentionnée, à cette république parce que justement, il était bien conscient que une fois la violence utilisée pour faire rentrer l'Ukraine dans le rang soviétique, il fallait quand même lâcher un peu de lest, hein, tout en étant favorable au discours internationaliste. Il était conscient que les nations quand même avaient du poids. Et pourquoi c'est intéressant de mentionner cela? Parce que Vladimir Poutine, justement, reproche à Lénine d'avoir trop donné à l'Ukraine et d'avoir favorisé, ce qui est vrai, le développement de la langue ukrainienne, la culture ukrainienne dans les années 20. Chose évidemment sur laquelle Staline reviendra complètement. Mais on voit que cette 1991 n'est pas sortie du chapeau. C'est quelque chose qui était déjà
en
germe,
bien
sûr, depuis longtemps, et qui a été favorisé de fait par Lénine.
Alors j'aimerais qu'on parle un peu avec vous, Marie-Pierre Rey, de la notion de colonialisme en ce qui concerne la Russie. Est-ce qu'il y a une théorie coloniale? Est-ce que les expansions territoriales s'accompagnent toujours de colonies de peuplement? Est-ce qu'il s'agit vraiment de russifier, ou est-ce que, au contraire, on laisse dans certains endroits peut-être trop éloignés de la capitale ou des différentes capitales? Parce qu'au fond, on comprend que du temps des Romanov, ça se passe déjà de cette façon-là. Est-ce qu'il y a une volonté d'unifier? Bref, dans quel type de colonisation se trouve-t-on?
Alors là, c'est une question sur laquelle on pourrait passer beaucoup de temps, parce que justement, du fait de, je dirais, de la taille du pays, on a différents cas de figure. Quand on parle de la Sibérie, etc., on est vraiment dans une colonisation, comme je le disais tout à l'heure, qui rappelle un peu le Far West, avec beaucoup de...
Donc il n'y a pas de résistance, ou il n'y a pas beaucoup de résistance? Il doit quand même y avoir des gens qui
peuplent
la Sibérie.
Oui, il y a eu des révoltes, mais elles ont finalement été matées rapidement. Et donc on a vraiment cet esprit pionnier qui est un peu étonnant pour nous, parce que on associe souvent la Sibérie au goulag, au camp dans lequel Dostoïevski avait été envoyé, mais pour les Russes à ce moment-là, la Sibérie, c'est une terre de liberté, parce qu'il n'y a pas de servage, c'est une terre de possible. Mmh. Et donc, on a des paysans qui vont coloniser, s'installer en Sibérie. Bien sûr, surtout à la fin du 19e siècle, du fait de l'existence de ce fameux transsibérien qui facilite énormément les déplacements. Donc là, c'est vraiment
une vraie colonie de peuplement.
Absolument, absolument. Et puis, on aura la même chose dans les steppes du Sud, où justement la mise en valeur de ces régions s'est faite par des colonies, et là, par des appels d'ailleurs à des colons étrangers. On va avoir des Allemands, on va avoir des Bulgares, parce que voilà, il faut un savoir-faire agricole que les Russes n'ont pas forcément. Et puis après, on a donc en colonisation ce qu'on peut vraiment appeler donc des modèles qui rappellent ce que nous avons pu connaître en Europe occidentale, qui sont des modèles de colonisation pour accéder à des ressources ou à des endroits qu'on considère comme stratégiques, voilà, c'est ça, et qui vont être donc à l'origine des guerres du Caucase, hein, qui se passent en
même temps. C'est très brutal, parce que
absolument.
La colonisation dans le Caucase par les Russes, c'est extrêmement brutal.
C'est extrêmement violent, et ça se situe en même temps que la conquête de l'Algérie, par exemple. Hein, c'est à peu près, c'est 1830, voilà, là c'est 1839-40, mais on est dans un peu cette même logique, avec une résistance qui passe par la guérilla, hein, et qui va prendre une allure de guerre sainte avec Chamil, l'imam. Donc vous voyez, on est vraiment là dans une opposition très très caractéristique du schéma colonial. Et puis, ce schéma colonial va être, je dirais, peut-être encore plus décuplé dans la colonisation de l'Asie centrale, où là, il s'agit clairement de mettre la main sur une région riche en coton, et où les Russes colonisants vont imposer la monoculture du coton au détriment de l'écosystème et de la société qui existait jusque-là et qui va...
Et de l'écologie aussi, puisque c'est l'histoire de la mer d'Aral.
Ça, c'est certain. Et bon, on aura là aussi des résistances, hein, au point qu'en 1916, il y aura une grande révolte en Asie centrale. Mais bon, ça n'empêchera pas cette colonisation et cette monoculture, très dommageable à l'écologie, comme vous le dites, de se poursuivre.
Mais aujourd'hui, on considère moins facilement la Russie comme un État colonial que l'Angleterre ou la France, par exemple. La Russie fait un certain nombre de pressions sur les pays africains pour faire en sorte de faire qu'ils se retournent contre les anciennes puissances coloniales. Donc il y a cette idée que la Russie n'est pas coloniale.
Oui, parce que elle-même n'en a pas été forcément consciente. Il y a eu une volonté... À l'égard de l'Asie centrale, on a un discours qui est aussi un discours racial, hein, c'est-à-dire de suprématie de l'homme blanc. Mais dans les autres régions, non. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est tout le paradoxe de cet empire, c'est que vis-à-vis des élites qui acceptaient l'autorité russe, il n'y a pas eu de violence particulière une fois que le pouvoir était en place.
Autrement dans le Caucase, quand même, la Tchétchénie, oui, ça s'est passé très mal.
Voilà, mais mis à part le nord du Daghestan, le nord d'Aghestan qui a toujours été une zone très instable jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que globalement par exemple, on avait beaucoup de généraux allemands, baltes dans l'Empire russe. Bagration est un géorgien. Donc il y avait une intégration des élites non russes qui fait que l'idée qu'il puisse être colonial, un empire colonial, n'était pas quelque chose de répandu. Et là-dessus s'ajoute, et ça c'est directement un écho à ce que vous disiez, le fait que Lénine et les bolcheviks vont mettre en avant aussi leur discours anticolonial, anti-impérialiste, que dit Lénine, l'ouvrage qui critique le colonialisme occidental. Et donc c'est ça aussi qui explique la rupture, c'est le fait que les bolcheviks ont eu très tôt un discours qui était celui qui dénonçait le colonialisme et l'impérialisme.
Tout en colonisant un petit peu quand même.
Qui a prétendu à un moment donné permettre à ceux qui voulaient quitter la Russie, l'Union soviétique, de le faire, mais qui en réalité, vis-à-vis de l'Ukraine, de l'Asie centrale, etc., n'a pas tenu la route, puisqu'en réalité, ils ont tout fait pour reconstituer l'Empire.
Est-ce que les personnes qui vivent sur le territoire russe ont été toujours des citoyens russes, considérés comme des citoyens russes, ou est-ce qu'il y a eu des citoyens de seconde zone dans des lieux qui ont été colonisés, par exemple dans le Caucase?
Alors, dans l'Empire russe, et jusqu'à aujourd'hui, les termes sont importants. On distingue la citoyenneté et la nationalité. Bon, dans l'Empire russe, l'Empire russe était Rassiskaya Impere, qui veut dire qu'on traduisait en français, à juste titre, l'Empire de toutes les Russies, pour dire que l'Empire russe n'était pas un russe ethnique. Et qu'il était donc, on acceptait cette diversité, même si Lénine et les bolcheviks diront que c'était la prison des peuples, en mettant l'accent justement sur cette idée que l'Empire tsariste était une prison des peuples dont il fallait les libérer. En réalité, après, ils vont faire encore plus intégrationniste, si on peut dire, que l'Empire des Tsars. Mais il y a cette idée que dans l'Empire tsariste, si on accepte le pouvoir, alors on existe en tant que tel.
Sauf une sorte d'universalisme.
Oui, et l'Empire des Tsars, par exemple, aussi, ne touche pas aux droits des autochtones. Il ne se mêle pas de la religion. Sauf cas important, les Juifs, qui ont été l'objet de discrimination jusqu'en 1917, où là, les Juifs qui sont entrés, si je puis dire, dans l'Empire russe par les partages de la Pologne, essentiellement, qui sont devenus partie prenante de l'Empire russe à ce moment-là, eux, malheureusement, n'ont jamais eu de droit. Ils ont été On subit des quotas, des discriminations diverses et variées, jusqu'à des pogroms terribles dans le dernier tiers du 19e siècle. Il faut aussi mentionner, c'est très important, que cette politique de tolérance, pourrait-on dire, de l'Empire tsariste ne dure pas jusqu'en 14-17, hein, puisque à partir de 1880, on a au contraire une russification de l'Empire, et qui expliquera d'ailleurs les révoltes que l'on va voir dans cette fin de période. Et dans la période soviétique, eh bien, on aura cette cohabitation de l'échelon soviétique et des nationalités à l'échelle des 15 républiques qui composent l'ensemble.
Mon premier rapport, si je puis dire, avec la Russie, c'était quand j'étais enfant et que je voyais donc un planisphère, très grand planisphère, qui était pendu au mur dans la maison de ma grand-mère, et où on voyait cette immensité de terre, cet archi-continent qui va, voilà, depuis les frontières de l'Europe jusqu'à l'Alaska, enfin jusqu'au détroit de Bering, donc au-delà du Japon, etc. Bon. Et c'est d'abord cette espèce de fascination de l'immense qui m'a attiré vers ce pays, et qui continue à m'attirer. J'ai écrit quelque part que je ne voulais pas mourir sans avoir vu la ville d'Anadyr, qui est une petite ville tout au bout de la Tchoukotka, là, c'est donc sur le détroit de Bering, qui est une ville donc dans laquelle ne parviennent ou d'où ne sort aucune route, pour la bonne raison que tout, il n'y a rien, il y a de la toundra, et puis bon, et donc c'est fascinant quand même. Ce petit îlot d'humanité qui est perdu au bout de milliers de kilomètres de rien.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Il n'y a rien, dit l'écrivain Olivier Rollin, au micro de Mathias Sénard, dans certains endroits de cette immensité russe. On a dit avec vous, Marie-Pierre Rey, à quel point la géographie était importante dans l'expansionnisme de la Russie, parce que, en effet, dans bien des endroits, il n'y avait rien, il n'y avait même pas tellement de relief, et on n'a pas évoqué non plus le rôle des fleuves, mais il y a beaucoup de fleuves qui permettent également d'avancer relativement facilement sur pas mal de kilomètres en descendant ces fleuves. Mais ça pose aussi une autre question, qui est que si c'est facile d'envahir les voisins,
d'avancer, enfin,
d'avancer, évidemment, c'est aussi facile d'être envahi. Et c'est un peu le paradoxe russe,
oui,
Marie-Pierre Rey.
Absolument. Ça, c'est quelque chose qui est une donnée cruciale, hein, qui est qu'effectivement, on peut avancer, mais ensuite, il faut sécuriser, il faut maîtriser, il faut conserver. Et là, ça a été plus difficile.
Sur des espaces qui sont incroyables.
Énorme. De fait. Et c'est ça qui va engendrer un sentiment d'insécurité.
D'insécurité.
Qui est aussi une donnée extrêmement importante dans l'imaginaire et la mémoire russe. Et c'est vrai que, ce sont des territoires qui ont subi à la fois des dangers, hein, venus de l'Est, avec ces fameux raids mongols, hein, dès le Moyen-Âge, puis ensuite les révoltes bashkirs qui déferlent, qui font des raids, mais bon, plus substantiellement, en tout cas dans l'inconscient collectif, hein, et de manière réelle aussi, les invasions les plus, si on met à part l'invasion mongole, les plus difficiles ont été celles qui sont venues de l'Ouest.
Donc Napoléon et alors, Hitler.
Déjà les Polonais qui occupent le Kremlin en 1612, hein. Un moment où de vacances de pouvoir extrêmement complexes, et on a donc le Kremlin est occupé par des troupes polonaises, et il y aura un premier sursaut justement, hein, nationaliste qui va bouter, pourrait-on dire, les Polonais hors de Moscou, et qui sera célébré de façon récurrente dans l'histoire russe et dans la mémoire collective russe par des monuments. Et ensuite, bien sûr, l'armée napoléonienne, et puis Hitler, bien sûr, à partir de l'opération Barbarossa de juin 1941.
Donc aujourd'hui encore, vous avez l'impression que cette inquiétude russe, elle est toujours là. Ce souvenir de ces invasions est toujours présent.
Alors, qu'il soit présent par la mémoire de façon, je dirais, naturelle ou qu'il soit instrumentalisé, bon, c'est un petit peu difficile de le dire avec certitude, mais c'est quelque chose qui est extrêmement présent, nonobstant, dans l'esprit des générations qui se succèdent.
Donc, vous diriez que peut-être dans l'invasion de l'Ukraine, dans la tentative d'envahir l'Ukraine de Vladimir Poutine, il y a cette volonté de faire un glacis entre l'Occident, disons, l'Europe de l'Ouest, et la Russie et Moscou, ou est-ce que l'on ne peut pas dire ça ?
Non, je ne crois pas. Je crois que c'est plus une question de d'ériger... S'il y avait une peur, je crois que c'est plutôt la peur d'une contamination idéologique, une contamination de l'esprit de liberté, une contamination des valeurs que...
De l'esprit de liberté, disons.
Oui, parce que l'Ukraine, quand même, a été... en fait, il y a deux choses. Il y a 2014, bon, où on a déjà la première intrusion et la prise de la Crimée. Et depuis cette date et jusqu'en 2022, le discours russe a beaucoup évolué, a beaucoup changé. Il est à géométrie variable. Il met des éléments en avant très très divers. Et je ne pense pas que il y ait eu vraiment une inquiétude militaire.
De fait, on voit mal les pays d'Europe de l'Ouest en attaquer la Russie.
Absolument. En revanche, ce qui est très clair, c'est que à partir du moment où l'Ukraine a commencé à regarder vers l'Occident, vers l'Europe, en affirmant qu'elle voulait, n'y arrive pas facilement, mais être un état de droit respectueux d'un certain nombre de valeurs qui sont celles de l'Occident, alors là, il y a eu menace. Donc c'est une menace dans le cas de l'Ukraine, qui n'est pas une menace de type territorial, mais qui est quand même perçue comme une menace pour un pouvoir qui se sentirait menacé et qui s'exprime de cette manière. Mais bon.
Donc dans l'expansionnisme russe et dans la volonté de coloniser, en l'occurrence peut-être de recoloniser ou de rétablir un protectorat sur l'Ukraine, on ne sait pas quelles étaient les idées de Vladimir Poutine, il y a ce côté civilisationnel. Cette guerre, au fond, sur la question des mœurs, par exemple, sur la question de la liberté dont vous parliez à l'instant, Marie-Pierre Rey.
Alors... Oui, alors là aussi, si vous voulez, c'est un discours qui évolue. C'est-à-dire que en 2022, il était question de dénazifier l'Ukraine en mettant en avant l'idée qu'il y avait eu des mouvements extrémistes en Ukraine. Et en oubliant que l'Ukraine avait fourni quand même des dizaines de milliers de partisans qui ont lutté contre Hitler. Donc l'idée de dénazifier, alors que on comptait des dizaines de milliers de partisans qui ont donné leur vie contre l'armée allemande, bon, c'est, là aussi c'était une vision totalement biaisée, mais qui parlait aux anciennes générations, gens qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale et qui ont grandi, ceux qui ont grandi après dans ce souvenir, et pour qui ça dit quelque chose. Donc voilà, c'était une forme de légitimation. Et là-dessus, on a eu ensuite un discours qui a évolué et qui est maintenant l'idée que l'Ukraine est le jouet de cet Occident collectif. C'est le concept un peu à la mode, employé par Vladimir, forgé par Vladimir Poutine et un certain nombre d'idéologues autour de lui. L'Occident collectif qui n'est jamais nommé.
On voit qu'à peu près oui, c'est l'OTAN, quoi.
Oui, voilà, mais ça peut être aussi à géométrie variable. Mais et qui est donc voilà ce nouveau danger contre lequel il faudrait se prémunir. Alors vous dites protectorat, c'est plus qu'un protectorat puisque là on est dans des territoires qui sont sous occupation.
Oui, occupation
et avec l'idée que voilà, je vous rappelle que quand même les républiques qui ont été donc autoproclamées sont considérées aujourd'hui comme des sujets de la Fédération de Russie, c'est-à-dire que elles sont considérées comme des républiques à part entière. Donc, on voit bien qu'on est là dans plus qu'un protectorat. C'est une annexion de régions entières et qui correspond de fait aux régions, à cette fameuse Ukraine orientale, qui faisait partie de l'Empire russe au XVIIe siècle.
Mais tout ça, ça pose la question de l'idée d'un peuple russe. Est-ce que vous avez le sentiment que quand on habite dans le Caucase, quand on habite à Vladivostok, quand on habite à Tashkent, quand on habite à Saint-Pétersbourg, on a l'impression de faire partie d'un même pays, sans doute, enfin en tout cas administrativement, mais d'un même peuple ?
Il y a des, je dirais que c'est difficile de répondre en un mot. On a des régions qui ont un sentiment régional, par exemple l'Oural, où on a un sentiment régionaliste très fort, qui est d'ailleurs assez ancien, hein, puisque ce sont aussi des régions où Pogatchov était présent. Donc on a des régions un peu frondeuses, je dirais, qui le sont encore. Hein. C'est pas un hasard si à Yekaterinbourg on a eu le seul maire d'opposition qui a été élu à un moment. Voilà.
Et qui regarde peut-être ce qui se passe en Ukraine avec un œil un petit peu différent du reste de la population, d'ailleurs.
Sans doute. Mais voilà, donc il n'y a pas un seul bloc. Et puis, par ailleurs, voilà, on a toujours cette énorme diversité de nations, hein, plus de 100 peuples quand même, encore aujourd'hui, même si le territoire a rétréci par rapport aux 22 millions de kilomètres carrés de l'Empire russe, on est quand même, comme vous l'avez rappelé, hein, plus de 17 millions, avec une variété très grande de populations.
Avec des langues aussi différentes.
Des langues, absolument. Donc, ils se sentent partie prenante de cette Russie, de cette fédération russe, mais on a des sentiments quand même régionalistes et parfois nationaux qui sont très importants. Alors, on le voit d'ailleurs, hein, aujourd'hui, on voit aussi la façon dont, enfin, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on aille dans cette direction, mais c'est important d'insister sur le fait que on a aujourd'hui, dans, par exemple, les soldats qui sont partis au front, une surreprésentation, hein, de certaines minorités, mmh, au détriment des Russes.
Volontairement, évidemment, pour...
évidemment.
Parce que c'est plus facile de faire venir des gens qui sont éloignés du pouvoir central.
C'est ça, et qui sont plus pauvres, mmh, et donc qui ont besoin où le chômage est important, et où on va donc avoir un enrôlement, bon, on le voit par exemple chez les Bouriates, hein, qui sont nettement surreprésentés dans les contingents.
Est-ce que ça pourrait pas créer des difficultés à la Russie à terme ? Par exemple, j'imagine que les Tchétchènes, oui, voient ce qui se passe en Ukraine avec quand même le sentiment que peut-être eux-mêmes pourraient se soulever de nouveau, par exemple.
Alors, le problème, c'est que le pouvoir russe, le pouvoir en Tchétchénie, incarné par Kadyrov, est un pouvoir très dur, puisque là, on est dans une république. Les républiques ont une grande autonomie aujourd'hui, et la république de Tchétchénie est dirigée par, je dirais, un tyran qui a mobilisé des troupes pour aller au front en Ukraine, mais sans probablement leur demander leur avis, ou en tout cas en faisant peut-être miroiter une solde très élevée, des avantages à leur retour. Mais on voit aussi, et c'est ça qui est intéressant, que parmi les premiers mouvements de contestation spontanée qui sont venus contre la guerre, ont émané de ces régions, et en particulier de femmes, mm-hmm, qui étaient extrêmement courageuses. On a vu, hein, les premières, avec le slogan Niet vaynye, qui veut dire non à la guerre, qui émanait de femmes de Tchétchénie, de Bouriati, hein, musulmanes, on le voyait sur les images, hein, des femmes musulmanes, mais qui ne voulaient plus que leurs enfants ou leurs maris ou leurs frères combattent sur le front.
Donc l'armée
ukrainien
doit aussi s'occuper de ça. Mmh. Le front n'est pas uniquement à l'ouest de la Russie. Peut-être qu'il faut également contrôler, et c'est toujours la question du contrôle d'ailleurs.
Absolument.
D'un État si grand, il faut peut-être aussi contrôler ses propres régions potentiellement dissidentes.
Disons que dissidente, en tout cas, c'est peut-être un peu fort, mais effectivement où s'exprime un mécontentement et parfois donc des résistances à cette incorporation plus ou moins forcée de jeunes gens pauvres, sans doute aussi manipulés ou forcés. On a dit qu'il y avait eu des rafles dans la République de Tchétchénie ou en Bouriati. Des gens qui sont raflés dans la rue et qu'on expédie sur le front.
Ça pourrait avoir des conséquences, ça, à plus ou moins long terme, sur, par exemple, la cohésion de la Fédération de Russie.
C'est ce que certains espèrent en réalité, en disant peut-être que ce régime s'écroulera par les révoltes des régions périphériques, des républiques nationales non russes, mais Je ne sais pas si c'est un vœu que certains formulent ou si c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment tabler. C'est difficile de répondre parce que en ce moment-là, l'appareil répressif est tellement fort que il n'est pas dit que ces mouvements extrêmement atomisés, pourrait-on dire, puissent faire surgir une énergie commune. C'est
parce que la répression des minorités, elle date là aussi d'avant Poutine, même d'avant l'URSS et même déjà du temps des Romanov. Il y avait ces minorités qui n'étaient pas considérées à l'égal des Russes.
Oui, et puis ça s'est surtout accentué, je dirais, dans la période soviétique, dans la période stalinienne, où on a eu en fait des peuples qui ont été déportés collectivement au motif qu'ils avaient collaboré avec l'ennemi nazi. Donc, et ça a quand même engendré des traumatismes, des peuples collectivement punis qui ont été déportés. Hein. Donc tout ça n'est pas si vieux et on peut imaginer que ça a laissé quand même des traces au sein des enfants de ces populations qui sont porteurs de cette histoire orale au moins.
Moscou-Yakoutsk, c'est un voyage très très sidérant parce qu'on part par exemple à 5h le soir de Moscou. On arrive à 5h du matin à Yakoutsk, mais on a voyagé que 6h parce qu'il y a 6h de décalage horaire. Et donc, on a l'impression de remonter le temps. Et quand on fait le voyage pendant la nuit, l'été, quand on part de Moscou, le soleil est sur la gauche, à l'arrière de l'avion. Il se couche. Il se couche vers l'ouest. Et puis, au fur et à mesure que l'avion avance pendant la nuit, il fait une courbe vers le cercle polaire. Et on aperçoit le soleil qui remonte, parce qu'on l'aperçoit par-dessus le pôle, faisant son tour au-dessus de l'Amérique. Et il se couche peut-être une heure, juste en dessous, ça reste rouge, et il réapparaît sur la gauche devant. Et quand on arrive à la fin du voyage, le soleil a remonté le temps, c'est-à-dire qu'il a fait le tour de l'autre côté du monde, et on l'a au soleil levant sur la gauche en face quand on atterrit. C'est un voyage complètement mythique et sidérant, et qui est à l'échelle de ce pays fou.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et on vient d'entendre le journaliste Claude-Marie Vadraud, interrogé en 1993 par Marie-Hélène Fraissé, qui souligne les dimensions folles. On ne cesse d'en parler avec vous, Marie-Pierre Rey, depuis le début de cette émission, de ce pays absolument hors normes, ce pays fou, termine Claude-Marie Vadraud, qui est insaisissable, qu'on a du mal, de par ses dimensions, à réellement comprendre. Peut-être qu'on peut parler à présent des questions migratoires et de la façon dont il y a eu de la porosité finalement entre la Russie pendant les derniers siècles et l'Europe et puis peut-être aussi d'autres régions du monde. Qu'est-ce qu'on peut dire des échanges de populations, des migrations dans l'histoire russe ?
Alors, on a eu très tôt, dès le XVIIIe siècle, en fait, des étrangers qui sont venus s'installer en Russie, invités par le pouvoir. Hein, c'est les fameux spécialistes sous Pierre le Grand et ensuite Catherine II qui ont invité, Catherine en particulier, les fameux colons allemands à s'installer.
Parce qu'ils ont souhaité, à un moment donné, s'ouvrir à la technologie occidentale et moderniser le pays.
C'est ça. Parce que le gros problème de la Russie, c'est de l'Empire russe, c'est que il n'a pas eu les moyens humains de développer, de contrôler, mais surtout de développer tout seul ce pays. Il manquait des ingénieurs, des techniciens, parce que nous n'oublions pas que l'empire des tsars est avant tout un empire de paysans avec une aristocratie.
La révolution industrielle arrive très tard.
Elle est venue plus tardivement et il n'y a pas eu ces classes moyennes en réalité qui sont nécessaires pour développer, justement, mettre en valeur ce pays. D'où l'appel à ces fameux spécialistes étrangers donc qui vont s'installer.
Donc il y a un quartier allemand.
Alors
dans
ça c'est le faubourg, ce qu'on appelle le faubourg allemand à Moscou, qui est antérieur en fait à cette période au XVIIIe siècle. Il existe avant, mais c'est important parce que c'est symbolique. On dit faubourg allemand, mais en réalité il englobe tous les étrangers auxquels le pouvoir concédait de suivre leur religion s'il l'entendait, mais qui les parquait. C'est-à-dire que il ne s'agissait pas que ces étrangers se mêlent trop à la population.
Donc il y a une méfiance, qui a un côté un petit peu utilitaire. On fait venir des gens pour qu'ils apportent leurs connaissances, mais par contre, il y a la volonté de garder une certaine pureté, peut-être, pourrait-on dire, du peuple russe. En tout cas, qu'ils ne se mélangent pas trop.
Alors, pureté, non, mais c'est l'idée d'un contrôle idéologique, c'est toujours la même chose. Dans un de mes ouvrages, j'avais intitulé « Le dilemme russe », c'était justement cette réalité-là qui est très importante, qui arrive dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on s'ouvre à l'Europe, on fait venir des Européens qualifiés parce qu'on en a besoin, mais en même temps, on a bien conscience que ces gens qui ont un esprit critique, qui sont plus ouverts, sont source de subversion. Mmh. Et donc, il va y avoir ce balancement permanent jusqu'en 17 et même après. Notons par exemple qu'au moment, au début du premier plan quinquennal, les soviétiques vont faire venir des ingénieurs américains. Parce que, voilà, ils ont l'habitude de quoi ?
Qui sont imprégnés, qui souhaitent rejoindre la révolution communiste.
Aussi parce non, pas du tout. Les ingénieurs américains qui viennent, certains surtout, sont attirés par de très bons salaires et ils ont un savoir-faire qui est de construire des usines gigantesques. Parce que les États-Unis sont un grand pays où on a des usines, on sait construire de grandes usines gigantesques, et c'est ça que le premier plan quinquennal souhaite installer aussi. Et donc, on va faire venir à prix d'or des Américains.
Qui pouvaient repartir ensuite chez eux ?
Alors oui, ils sont repartis. Certains d'ailleurs ont été contraints de repartir parce que Staline après va revenir sur cette période d'ouverture. C'est très peu de temps, mais ça a été un moment extrêmement intéressant où on a justement cet appel à à ce qu'on appelle les spécialistes, et dont malheureusement certains vont rester et puis seront liquidés dans les purges staliniennes. Mais voilà, ça c'est une donnée qui existe et qui est intéressante. Et puis après, en termes plus importants, on va surtout avoir des départs, c'est-à-dire une émigration qui va suivre l'éclatement de l'Empire russe et la révolution bolchevique, où là on va voir partir
donc les Russes blancs.
Un million de personnes. Là, on est vraiment dans des gros chiffres. Un million de personnes qui vont rejoindre l'Allemagne, la France, les États-Unis. Ça, c'est une grande vague d'émigration, alors qui correspond à des Russes souvent, alors pas que des Russes d'ailleurs, mais puisqu'il pouvait y avoir d'autres nationalités, mais en tout cas des personnes éduquées qui vont faire défaut après au développement du pays, qui sont des élites très éduquées. Donc ça, c'est vraiment la première vague. Et puis ensuite, on aura une deuxième vague de départ qui correspond aux années 60-70 surtout.
Pourtant, le pays est censé être fermé à ce moment-là.
Alors, dans le contexte de la détente, il s'ouvre et on aura en particulier une autorisation de départ concédée aux Juifs au nom du rapprochement des familles. Beaucoup vont pouvoir partir. Et puis la troisième vague, c'est évidemment la fin de l'URSS où l'écroulement va favoriser le départ.
C'est beaucoup de monde, c'est à peu près 100 000 personnes par an pendant les premières années suivant la chute du mur de Berlin, Marie-Pierre Rey.
Oui, la fin de l'URSS, oui, c'est ça. On a 1 million de Russes, 1 200 000 Russes, on évalue, qui sont partis de la fin de l'URSS jusqu'au milieu des années 2000 et 4 millions pour toute l'ancienne Union soviétique. Ce sont des gros chiffres. Alors, à contrario, après, à partir des années 2000, on va avoir une main-d'œuvre qui va venir d'Asie centrale, s'installer, et qui, elle, alors, n'est pas qualifiée. C'est une main-d'œuvre que l'on voit très dans les rues de Moscou. On voit, dans la planche, dans les restaurants, les travaux de terrassement, tous les tâches très difficiles, dures, qui sont confiées à cette à cette main-d'œuvre venue des anciennes républiques d'Asie centrale devenues indépendantes, mais qui sont là attirées par des salaires plus élevés. C'est une émigration de type économique.
Et du côté des Européens de l'Ouest, est-ce qu'il y a eu à un moment donné, au début des années 2000, une émigration? Parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises quand même, françaises en particulier d'ailleurs, qui sont allées s'installer là-bas. C'est pas des flux conséquents?
Non, ce sont pas des gros flux. Non. Et effectivement, ce sont des ingénieurs, des directeurs d'entreprises qui se sont installés.
Qui vont et qui repartent.
Oui, certains ont épousé des Russes et se sont installés là-bas. Mais ça ne représente pas des chiffres à l'échelle de, par exemple, la main-d'œuvre venue des ex-républiques d'Asie centrale. On n'est pas du tout dans les mêmes données.
En revanche, aujourd'hui, on assiste à une sorte de fuite d'un certain nombre de jeunes qui fuient la conscription et puis qui fuient aussi le pays parce qu'ils sont en désaccord avec Vladimir Poutine. Marie-Pierre Rey, est-ce qu'on peut évaluer un petit peu l'importance de ces départs?
Alors, c'est difficile, évidemment. On va pouvoir donner des fourchettes. Selon les observateurs, on évalue entre 600 et 800 000 personnes qui seraient parties. Alors, il y a eu en fait deux vagues de départ. La première s'est produite tout de suite après l'annonce donc de la fameuse dite opération spéciale. Et puis ensuite, la deuxième vague, donc ça c'est en février-mars, disons. Et ensuite, en septembre, lorsqu'il y a eu la mobilisation, l'appel à la mobilisation à grande échelle, qui a suscité des départs en nombre. Alors, c'est quelque chose qui est très très important, ça. Pourquoi ? Parce que outre les chiffres, donc quand même extrêmement élevés, on s'aperçoit que ce sont évidemment des jeunes gens, donc des hommes, des jeunes hommes pour la plupart évidemment, puisqu'ils veulent fuir la mobilisation, qui sont souvent diplômés, donc qui sont entre 18 et 35 ans et qui sont soit étudiants, soit déjà cadres, et qui travaillaient souvent dans des domaines de haute technologie ou dans les médias, beaucoup d'ingénieurs, et les directions dans lesquelles ils sont partis sont intéressantes parce que on a eu pas mal de départs en Israël et aux États-Unis où on a des liens familiaux qui avaient pu subsister et qui sont là remis en avant, et puis également évidemment en Allemagne, pas mal en Allemagne, et puis en France dans une moindre mesure. Alors ça, ce sont les catégories, je dirais, les plus aisées, ceux qui avaient déjà ou des liens familiaux ou qui ont des statuts sociaux ou des qualités et des qualifications qui leur ont permis très vite de s'implanter. Après, ceux qui sont un peu moins aisés, donc classe moyenne typique, on les a vus partir dans les anciens pays de l'Union soviétique, en Géorgie en particulier, par exemple, en Géorgie, en Arménie, qui sont en fait des anciennes républiques où il n'est pas besoin de passeport extérieur, de visa pour
partir.
Parce
que par exemple, un Russe qui souhaiterait s'installer en France a besoin
d'un visa. Visa. Donc c'est ce qui expliquait que les procédures étaient plus longues, tandis que le pays s'est enfermé, c'était difficile. Mais
les visas sont accordés quand même, j'imagine.
Oui, maintenant c'est évidemment plus compliqué, mais en tout cas dans les premiers mois, la première année, il était plus facile de partir. C'est ce qui va expliquer que, enfin, dans les anciennes républiques, on évalue à 100 000 le nombre de Russes actuellement présents en Géorgie, même chiffre à peu près pour l'Arménie. Donc c'est dire, au Kazakhstan aussi, on en compte beaucoup. Donc c'est dire à quel point il y a une hémorragie. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que ces départs vont être durables? Parce que ce n'est pas forcément évident de s'installer.
Tout dépend peut-être de la durée de la guerre.
Et puis par ailleurs, ce qui est à souligner, c'est que ce sont des jeunes gens et qui risquent donc de ne pas être pères de famille en Russie. C'est-à-dire que s'ils s'installent dans des pays étrangers, ce sont autant de pères qui ne s'installeront pas en Russie et qui du coup vont accentuer le déficit démographique qui est déjà une catastrophe pour la Russie.
Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Profondeur de la population russe est très importante. On en parle beaucoup au sujet de la guerre, en disant qu'il y a beaucoup de soldats disponibles.
Oui, mais en même temps, la Russie est en déclin démographique. En 2006, Vladimir Poutine disait que c'est le problème le plus grave du pays. Et peut-être pensait-il déjà d'ailleurs à ses chairs à canon dont il a besoin, parce que c'est un discours de 2006. Donc peut-être qu'on peut se demander pourquoi pourquoi il le tient à ce moment-là. Mais toujours est-il que la Russie est un pays en déclin démographique. Alors, si vous ajoutez les pertes au front, qu'on évalue à peut-être 150, 180 000 disparus et blessés, plus ces départs d'hommes jeunes qui ne procréeront peut-être plus en Russie, bah ça fait un sacré manque à gagner démographique. Mmh. Et donc là, on est voilà dans une sorte de contradiction supplémentaire telle qu'il y en a énormément dans les pratiques de ce pouvoir russe actuel.
Qu'est-ce que finalement la population russe vit aujourd'hui, selon vous? Alors évidemment, vous êtes coupé, vous avez bien connu ce pays, mais vous en êtes un petit peu coupé aujourd'hui. Quel vous semble être l'état d'esprit des Russes aujourd'hui?
C'est difficile d'évaluer quoi que ce soit, parce que il faut se rendre bien compte que le matraquage de la propagande est constant. Constant. C'est un tous azimuts. On ne se rend pas forcément compte en France de ce degré d'imprégnation de la propagande, avec des messages extrêmement sommaires mais qui portent. Et puis
je vais devoir vous arrêter là, malheureusement, Marie-Pierre Rey, parce qu'on en est déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour ce rappel historique, et pardon de vous couper de cette façon. Je rappelle que votre atlas historique de la Russie a été coécrit avec François-Xavier Nérard. Il est disponible chez Autrement. Géographie à la carte, c'est Anne-Vanessa Prévost, Jean-Christophe Francis et ce soir, Jean-Guilain Meige.